Bonjour Miguel Bonnefoy.
Bonjour.
À la toute fin de votre livre, page 289, il y a en quelque sorte l'explication du titre. Les paysans de Maracaibo sont persuadés que dans toute portée de chat, il y a un jaguar. Et un peu plus loin, on est tous les fils d'un rêve de jaguar. Quel était à vous votre rêve de jaguar, Miguel Bonnefoy? Ça a toujours été d'écrire?
Oui, ça a toujours été d'écrire. J'ai le malheur de ne pas savoir faire autre chose. Et comme Samuel Beckett, lorsqu'il répondait « je ne suis bon qu'à ça », je pourrais affirmer la même chose. Malheureusement, je ne suis bon qu'à ça. Et donc, fatalement, dans toutes les portées de chat des différentes disciplines artistiques, des différents domaines de compétences, des différentes ramifications d'études qu'on m'a proposées, eh bien, il m'a semblé que le jaguar de l'écriture était la seule que je pouvais faire.
Alors, dans ce livre, vous racontez l'histoire d'une famille, de votre famille, et ça commence au Venezuela avec celle de vos grands-parents, Antonio et Anna Maria. Leur vie a été aussi extraordinaire que vous le racontez dans ce livre, où il y a quand même la marque, le fantasme et la liberté de l'écrivain à chaque page?
Leur vie a été encore plus extraordinaire que ce que je raconte dans le livre.
C'est pas croyable.
C'est ça qui est fascinant, non? La réalité peut se permettre le luxe d'être invraisemblable, non? La fiction ne peut pas se permettre ce genre de liberté. La réalité, le réel, la biographie des gens peut se permettre le luxe d'être démente, d'être folle, d'être contradictoire, d'être explosive, wagnérienne, napoléonienne. Si tu essayes de mettre la même chose dans un livre, on te dit « ah, c'est trop ». Donc il a fallu paradoxalement que je bride leur vie, que j'enlève certains passages, que je réduise la gloire ou le succès à tel moment, que je maquille certaines dates et certains lieux pour pouvoir donner paradoxalement une vraisemblance au roman.
Magnifique. Alors tout est tour à tour sublime et presque parfois burlesque dans ce livre. Et je prends pour exemple l'histoire de votre grand-père, abandonné, recueilli par une mendiante muette qui va d'abord travailler dans un bordel avant de devenir l'un des plus grands médecins du Venezuela, qui tombe fou amoureux d'une femme qui sera la première femme médecin de Maracaibo et qui, pour la séduire, va avoir recours à un joli procédé. Est-ce que vous pouvez nous le raconter?
Absolument. Lorsque Antonio tombe amoureux de Anna Maria, parce qu'il la voit dans la rue, il lui dit « qu'est-ce qu'il faut faire pour me marier avec vous ?» Et elle lui répond « je ne me marierai qu'avec l'homme qui me racontera la plus belle histoire d'amour. » Alors il décide de prendre deux tabourets, un carré de carton, va à la gare centrale, à la gare routière de Maracaibo, là où passent toutes les personnes qui sont en voyage et en escale, et écrit sur ce carton « j'écoute des histoires d'amour », s'assoit sur le tabouret et attend que les passants viennent s'asseoir sur l'autre tabouret pour lui livrer, lui raconter, comme ça lui offrir une histoire d'amour. Et puis un deuxième, un troisième, un quatrième et une longue file de gens secrets au point qu'au bout d'un moment, Antonio réussit à amasser, à récolter presque 1000 histoires d'amour. Et une fois que le carnet est rempli, il retrouve Anna Maria dans un jardin sous un manguier, lui pose le carnet sur les genoux et lui dit « voici 1000 histoires d'amour, moi j'en connais aucune, mais je te propose qu'on écrive la nôtre ».
Il existe ce carnet ?
Alors ce carnet n'existe pas, pour être tout à fait honnête.
Ça c'est l'écrivain.
Pour être tout à fait honnête, cette partie en effet elle a été inventée car je ne savais pas exactement comment ils s'étaient rencontrés. Je sais qu'ils s'étaient rencontrés à l'université à Caracas pendant les études de médecine, parce que les deux étaient médecins. Mais j'avais envie de donner un je ne sais quoi d'un peu plus poétique, un
à
peu
la
plus
hauteur
lyrique.
De leur vie.
Bravo, à la hauteur de leur vie, c'est exactement ça.
Il y a aussi le flamboyant personnage de votre mère que vous appelez Venezuela dans le livre. Est-ce que votre rêve de jaguar n'était pas aussi d'offrir à votre mère une magnifique fresque pour lui dire votre amour, parce qu'on sent beaucoup de cela aussi là-dedans?
Oui, absolument. Et j'avais écrit Héritage, qui était un livre sur l'histoire de mes ancêtres côté paternel. Et c'était une sorte d'hommage à la famille des Bonnefoy, donc au grand-père de mon père, était à mon grand-père, ensuite à mon père, etc. C'était une sorte de génération d'hommes et de femme extraordinaire des Français chilianisés. Et naturellement, il me semblait évident qu'à un moment, il fallait faire l'autre pendant, non ? Il fallait faire le livre miroir, le livre diptyque, et de parler des ancêtres côté maternel en rendant hommage à ce côté-là de la famille. Et bien sûr, la mère est la mère, que voulez-vous ? La madre est la madre. Alors, il fallait que ce soit un livre, comme vous le dites si bien, une sorte de grande lettre d'amour, non seulement à ma mère, mais également à mes grands-parents, mais également au pays, au Venezuela, non ? Celui qui, mon père disait toujours, celui qui n'aime pas son pays n'aime pas sa mère. Donc, en quelque sorte, c'était un peu une lettre d'amour à tous les deux, au Venezuela et à ma mère. Et ce qui est très beau aussi, c'est que, dans la réalité, Antonio y Ana María se séparent quand ils ont autour de 50 ans. Et Antonio aura d'autres femmes. Mais dans le livre, je fais que leur histoire d'amour continue pendant 100 ans, il n'y a que la mort qui peut les séparer. Ma mère, en finissant le livre, était émue aux larmes parce qu'elle disait « tu as écrit l'histoire que j'aurais aimé vivre petite fille. Et je l'ai fait parce que moi j'ai des filles qui auront des filles, peut-être qui auront des enfants, peut-être, etc. Et dans trois générations, quand plus personne se souviendra de la vraie histoire de ses arrière-arrière-grands-parents du fin fond de Malakai, qui étaient plus ou moins médecins recueillis sur les marges d'une église, enfin, on s'en souviendra plus, il ne restera comme témoignage que ce livre. Qu'est-ce qui restera? Que dans notre famille, les histoires d'amour ne finissent que dans la mort.
C'est
un privilège d'écrivain, ouais. C'est le côté démiurge, c'est le côté où tu recrées par la fiction une nouvelle réalité. Tu crées un nouvel héritage et tu donnes alors un nouveau récit collectif à ta famille sur lequel on va se calquer pour pouvoir créer de nouvelles générations. Tu vois.
Alors, il manque un épilogue dans ce livre. Ce petit-fils qui écrit l'histoire de ses ancêtres vénézuéliens et qui pour cela se voit distingué de deux des plus grands prix littéraires français, dont le Grand Prix de l'Académie française. C'est comme une conclusion logique, je trouve, pour ce livre. C'est incroyable.
C'est assez beau. C'est assez beau ce qui s'est passé. Je suis d'accord avec vous. Je souligne tout à fait ce que vous dites et je suis votre idée que c'est étonnant de se rendre compte comment le livre étant un roman sur quelqu'un qui est en train d'écrire cette histoire, c'est une grande mise en abîme, en fait. Et en quelque sorte, on n'a pas le fin mot de l'histoire, puisque le livre finit lorsqu'il commence à écrire ce livre. Et il semblait presque impossible d'imaginer, inconcevable d'imaginer, qu'il aurait un destin aussi explosif et aussi à la mesure, non, et à la hauteur, en
exactement,
quelque sorte, de ceux de Antonio, d'Ana Maria, de Venezuela.
Et en France, qui est le pays de rêve de Venezuela.
Enfin, il y a une rondeur qui est magnifique où tu te dis, mais peut-être qu'on regardera ça plus tard, tu sais, à un demi-siècle de distance, en disant, mais quand tu le regardes dans l'alignement, il y a quelque chose qui est très beau, qui est très cohérent, qui est évident, qui est alchimique.
Ce qui est très beau aussi, c'est de voir que deux prix littéraires français distinguent des fables, des fantômes, des chamans, des oracles, parce qu'il y a de tout ça aussi dans ce livre. Il y a donc une place pour cette tradition-là très latine dans le cartésianisme français ?
Visiblement, oui. Non, manifestement, oui. Et je trouve toujours merveilleux de voir la multiplicité des lectures en France et de me rendre compte combien bien qu'il y ait bien sûr un goût pour, comme tu dis, la littérature un peu cartésienne, le côté rationnel, la rigueur, l'effet de réel, la nécessité qu'il y ait des structures narratives qui soient entièrement lisses et qui excluent tout type de surnaturel ou de magie. Et qui est une littérature qui est fabuleuse et magnifique, il y a aussi visiblement de la place pour cet autre je ne sais quoi, pour ces petites porosités avec un monde d'au-delà, pour le goût poétique d'une très vieille tradition qui est celle de la chamanerie, de la sorcellerie, du dialogue avec les morts, d'un je ne sais quoi de surnaturel qui peut donner une épaisseur à une scène. Et je trouve ça merveilleux de se rendre compte que depuis, depuis Marcel Aimé, qui lui utilisait beaucoup ce réalisme magique, Sylvie Germain, qui elle aussi utilise beaucoup ce réalisme magique. Je pense à mon ami Gilles Marchand, qui lui aussi va vers ces sentiers-là. Mais je pense aussi à Rabelais. Je pense même à Hugo, qui était fasciné par les tables tournantes, et qui était convaincu de parler avec sa fille morte, enfin tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans l'histoire de la littérature française un goût pour ce type de territoire et de royaume un peu invisible. Et j'aime de me rendre compte que dans mes livres, il y a également un écho qui se fait.
Miguel Bonnefoy, vous signez Le Rêve du Jaguar chez Rivage, le livre qui a emballé Les Dames du Fémina, Les Immortels de l'Académie française et des milliers de lecteurs. Je pense donc que je n'ai rien à ajouter. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.